This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.
Vous écoutez
RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non, non.
Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Thomas Deston.
Avec Ludovico Bragnac, avec Daniel Riolo, et évidemment ce soir, il y aura du Buenas Tardes, du Guten Abend, du Good Evening. On va débuter avec l'Espagne. Quand on vit dans un pays qui accueille les franchoutés pour les vacances, je me demande où on va. C'est drôle de dame. Fred Hermel est avec nous. Bonsoir Fred. Alors, où as-tu passé tes vacances? C'est la grande question, non, c'est la grande interrogation de Daniel.
Vraiment celle-là, c'est est-ce qu'il a mieux réussi que l'année dernière ses vacances?
Ah.
Parce qu'il avait quand même complètement raté l'année
j'ai
dernière.
Fait Olaticos.
Qu'est-ce que tu fais pour les vacances?
Tu sais Daniel, j'ai fait une petite photo tout à l'heure pour annoncer mon retour ce soir à l'antenne. Ah. Et j'ai eu plusieurs messages sur Instagram et beaucoup de gens m'ont dit attention au tribunal de Daniel ce soir.
Ah bah, hein, c'est bien que moi je valide toutes vos vacances.
Voilà.
Donc évidemment, et il faut savoir immédiatement si les tiennes sont validées, mon ami.
Alors, tu connais pas la vallée de la Scarpe.
Ah, soit
ça,
précis.
Alors, quiz.
Non, c'est pas le Pas-de-Calais chez moi, quoi.
Alors, t'es redescendu.
T'as pas fait un voyage habituel.
Non, c'était très calme. J'ai fait 15 jours dans le Pas-de-Calais, dans les plaines de l'Artois, la vallée de la Scarpe, chez moi.
T'es même pas venu me voir. C'est pas beau, ça. Hein.
Non, c'est vrai, mais tu sais, j'étais avec ma maman, ma sœur, tout ça, enfin, on a fait vraiment, c'était vraiment très famille, avec une petite visite.
Ouais, parce que d'habitude, oui, tu fais toujours un peu les vacances avec la MIF, mais derrière, tu fais un voyage, quoi.
Bah, le voyage, ça a été sur la Costa Blanca, je vais pas commettre la même erreur qu'avant les vacances, à Denia avec mon neveu.
Ah, mais oui, t'avais dit que tu devais aller, mais oui, j'avais oublié Denia.
Mais j'étais fatigué, je sais pas pourquoi j'ai dit la Costa Brava, c'est bien sûr la Costa Blanca, entre Valence et Alicante.
Bah, Denia avec le neveu, excuse-moi, Denia, c'est un truc de pour sortir. De boîte de nuit, hein.
Ah non.
Ah non, c'est plus au sud.
C'est
Benidorm, que
Yorodelmar et tout ça.
Benidorm, déjà, c'était vraiment la dernière limite, quoi. C'était la dernière ville.
Je comprends mieux pourquoi tu m'avais briefé sur le fait que le point vacances avec Fred est important.
Ah oui, non, parce qu'on en parle encore de mes vacances à la tête de l'an dernier, tu sais.
Fred,
je voulais y retourner, j'ai pas osé parce que tu vois. Donc...
Pas de Super Coupe d'Espagne parce que nouveau format, ils vont jouer à 4 début janvier.
Début
dans
janvier,
12 jours, dans 12 jours, le Real. À Vigo, Zizou veut son milieu. Est-ce qu'il veut sa pioche ou est-ce qu'il veut un milieu? Qu'est-ce qu'il veut-il?
Il veut Pogba. Voilà. Il veut Pogba. Ça lui, il n'en démord pas. Les très mauvais résultats, notamment cette claque légendaire 7-3 contre l'Atlético lors de l'International Cup machin. Là. Tu sais, le truc où ils jouent en Asie aux États-Unis. Là, c'était aux États-Unis. Ça fait quand même beaucoup de bruit ici. Voilà, Zizou veut absolument. Pogba, il n'en démord pas. Alors on lui dit ouais, Eriksen, non, il n'en veut pas. Un tel, non, j'en veux pas. Alors Van de Beek, alors.
Est-ce qu'il est pas un peu trop capricieux là?
C'est pas qu'il est capricieux, c'est qu'il y avait des conditions pour son retour et qu'il y avait un deal.
Eh ouais, d'accord, mais enfin tu sais très bien que c'est les conditions dans le foot aujourd'hui. Tu vas pas mettre un flingue sur la tempe de United s'ils veulent pas le lâcher et sur
non,
celle de Florentino Pérez si c'est trop cher.
C'est quoi
Mbappé et quelques secondes
le prix de Pogba, Fred.
Bah, Manchester a demandé 180 pour l'instant, donc ce qui est pas possible. Et même à 150, ils le prennent pas. La différence, c'est que Pogba accepte de baisser son salaire, qui était le premier problème. Donc il baissera assez fortement son salaire. Enfin, il prendra quand même 12-13 millions, hein, mais il ne sera pas aux 17 millions annuels qu'il a actuellement à United. Donc la question Pogba, la question Raiola, qui était vraiment des problèmes au début, ça c'est réglé. Maintenant, c'est négociation avec Manchester United. Et donc, alors c'est vrai que le Real est pas pas loin d'engager Van de Beek, ou Van de Beek, suivant la prononciation. Mais bon, c'est un joueur de 22 ans, Zizou, il veut quand même des joueurs un peu confirmés quand même, parce qu'il faut que ça marche tout de suite. Donc, c'est pas une entreprise de formation, le Real Madrid. Il est plus au Castilla, quoi. Donc,
Et Fred, impossible d'imaginer un Gareth Bale qui puisse aller à Manchester.
On veut même plus Gareth Bale.
Julien Laurence, je lui avais posé la question juste avant les vacances. Il avait dit qu'il n'en voulait pas. Eh ben oui, en fait, le problème, c'est que personne ne veut de Bale. C'est ça le problème. Surtout à 15 millions.
Bale, il s'est mis un peu dedans tout seul.
Mais quand, les parcours de golf, quand même.
Ok, il est sous.
Non, mais c'est qu'à chaque fois
qu'il joue, il a encore mis des buts en finale de Ligue des Champions.
Je ne parle pas de la qualité du joueur, je parle de ce qu'il veut. Est-ce que lui-même.
Mais revenir en Angleterre, c'est pas loin de chez lui.
Mais Ludo, est-ce qu'il a une certitude sur ce que lui veut vraiment dans sa vie?
Non, mais je ne sais pas ce qu'il veut.
Ludo, simplement pour te dire. Gareth Bale, depuis qu'il a signé au Real Madrid, c'était en août 2013, donc 6 ans au Real Madrid, il n'a joué que 53% des minutes possibles. Ouais. Le problème de Bale, c'est un problème de fiabilité.
C'est vrai Neymar, qu'il y a des 50% exploits. Neymar, Fred.
Pardon ?
C'est 3% de plus que Neymar.
Oui, bah oui, ça c'est un autre sujet. Mais la différence, c'est que Neymar, c'est sur 2 ans. Donc il y a des circonstances. Bale, c'est sur 6 ans. Ouais. Sur 6 ans, 53%. Alors c'est vrai qu'il y a des exploits, les deux buts en finale Ligue des Champions, le but contre Barça en coupe en 2014, le but en finale de la Ligue des Champions en 2014, certes, mais ce sont des petits arbres qui ne cachent pas la forêt.
Mais ce qui est bizarre dans le climat actuel, alors certes qui a été terni par ses résultats dans les matchs de préparation et même les choses anodines en Espagne ne le sont pas très longtemps, surtout quand il s'agit du Real ou du Barça.
C'est un peu tout match d'ailleurs quand même dans la presse. Hein.
Je pense aussi, mais bon, c'est vrai que c'est tellement original comme score que je peux comprendre que ça ait fait du bruit, même si sur le fond, on pourra en parler longtemps. Mais ce qui est étonnant, c'est que on a le sentiment que le Real, là, c'est bon, mais merde, ils n'arrivent pas à prendre du monde, alors que le Barça, pendant ce temps-là, a fait sa présentation. Bon, bah, ils ont eu Griezmann. Ils se payent presque le luxe de finalement ne pas faire Neymar, même si jusqu'au bout, on ne sait pas trop.
Ouais.
Et de l'autre côté, bah, ce qui ressort, c'est vous n'arrivez pas à faire Pogba alors que vous l'aviez annoncé. Et même hasard, on a le sentiment, on a presque oublié qu'il était venu.
Ouais, ouais, mais alors, Eden, il est arrivé avec 10 kilos.
Et c'est, ouais, mais malgré tout, le sentiment, tu sais ce qui s'est passé,
Daniel? Je vais t'expliquer. C'est purement médiatique, c'est une question de perception. C'est-à-dire
que
le Real a fait son marché très tôt.
C'est de ça dont je te parle.
Parce que le Real a quand même engagé Milito, Jovic.
Oui.
Hazard.
Oui.
Qui encore.
Mais c'est de ça, moi je te parle de
Rodrigo.
Ça, je veux te parler de la perception globale. Pourquoi c'est ce qui ressort aujourd'hui?
Parce que ça n'a pas été feuilletonné. C'est-à-dire que le Real, après l'échec, et aussi sur l'échec catastrophique de cette saison passée, et aussi parce que Zidane voulait avoir les
cibles. Ça attendait
très
plus
tôt.
De clinquants, c'est ça?
Non! Parce qu'en général, tu sais, t'as un transfert, puis après, 15 jours après, t'en as un autre. Là, ils sont tous arrivés. Parce que Zidane avait demandé à ce que les joueurs soient tous prêts pour la rentrée des classes du 9 juillet.
Après, c'est vrai qu'ils attendaient peut-être un nom, justement, un peu genre Pogba, transfert un peu
plus après,
coupé,
non, mais là, après, c'est une question.
Qui arrivera.
Ludo, Fred, excuse-moi, mais utilisation différente de Paul Pogba et de celle de Danny Van Beek. Lassechon vient de partir au Genoa, on parle de ce triangle de l'Ajax, ça y est, qui va à 1. De Jong, plutôt un numéro 8 au Barça. Van de Beek, il était presque 10. C'est plus haut, c'est pas exactement la même chose que Paul Pogba. Donc on parle de l'un ou l'autre ou quoi?
Non, l'arrivée possible de Van de Beek n'a aucun rapport avec l'arrivée possible de
D'accord.
De
Moi, de là, t'as le sentiment qu'ils doivent faire des noms. Ils doivent faire du transfert, le Real.
Zidane, le numéro 1. Je peux te dire, Daniel, que le numéro 1 dans la liste, quand au mois de mars, Florentino Pérez appelle Zidane, le numéro 1 de la liste, c'est Pogba. Hein.
Voilà. Et donc, quel est ton sentiment aujourd'hui? Est-ce que ça va finir par se faire?
Ouais, je pense. Mais ça va coûter de l'argent. Voilà. Et donc, ils attendent de voir, etc.
Parce que même Paul Solskjaer a déclaré il y a deux jours que son sentiment profond est qu'il ne bougerait pas.
Ouais, mais bon, tu sais, il reste un mois de.
Je sais, mais.
Il reste quasiment un mois.
Solskjaer, on l'a
alors,
pas
oui, enfin,
obligé
après, il y a un
dire
problème.
Ça,
il y a un problème, c'est jeudi, le fermeture du marché anglais, pour l'inscription des joueurs à 18h. Donc, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment.
Ah, donc,
que
c'est jeudi ou rien, alors?
Ah oui.
Bah, oui, si, parce qu'ils sont sur Bruno Fernandes, le United. S'il n'y a pas ce joueur ou un autre qui est engagé, ça sera plus compliqué. Mais en tout cas, moi, je te parle du sentiment, de l'envie qu'il y a au sein du staff technique. C'est que Pogba est l'une des pierres angulaires, comme hasard, du prochain Real Madrid, quoi.
Fred, c'est quoi ton sentiment, là, sur cette période cette période estivale de matchs amicaux? Parce que, il y a une vraie inquiétude.
Hasard, il a donné quoi, Hasard?
Non, Eden, il arrive avec 10 kilos, avec 10 kilos en plus.
On va parler de l'Atletico, ils en ont pris 5 à la mi-temps, ça
fait je veux que vous me parliez de l'arrivée d'Hazard.
Eden, comme d'habitude, il est vacances, il est vacances. Donc, il a pas compris. Je pense qu'il a pas compris encore l'importance d'être au Real Madrid.
Il est encore à l'aise, quoi.
Est-ce que ça implique d'être au Real de Madrid médiatiquement et tout ce qui va avec? C'est vrai que Chelsea, c'est une grande équipe, mais c'est pas le Real. Là, t'arrives, t'as 7 kilos en trop.
Il se bouge vite, hein.
Et les matchs amicaux, du coup, comme il est en surpoids, il a été moins bien, voire inexistant. Donc forcément, je suppose, Fred, qu'il doit lui tomber dessus.
Mais ils sont tombés dessus, bien sûr, sur les questions du poids. Après, le maillot blanc, tu sais, quand tu veux cacher ton ventre, tu mets un maillot noir. Le maillot blanc, ça aide pas non plus, vraiment. mais c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas forcément de grandes inquiétudes, parce que moi, je me souviens que quand un certain Zinedine Zidane a signé, j'étais déjà là, en 2001, pendant 6 mois, on a dit que Zidane était nul. Tu vois, il a fallu 6 mois pour qu'il s'intègre. Bon, on va attendre. Là, ça fait un mois.
Non, mais vous inquiétez pas. Eden, il sera là. Bien sûr.
On revient en arrière, messieurs, sur Paul Pogba. Vous êtes dubitatif. Rachid, lui, il est clair. Bonsoir, Rachid. Toi, tu dis Pogba, trop cher, pas la priorité.
Bonsoir à tous.
Salut, Rachid.
Non, moi, je pense que sincèrement, ça s'entête un peu avec Pogba. J'aime bien le joueur. Hein. Franchement, j'aime bien le joueur, mais je pense pas que ça soit actuellement la solution pour le Real. J'ai vraiment l'impression, moi, la seule chose qui me fait peur, c'est même pas qui faut recruter, c'est quand je vois Zidane s'entêter à mettre des Toni Kroos, des Modric, c'est plus ça qui me fait peur que vraiment le recrutement actuellement. Franchement, quand je vois Toni Kroos et Toni Kroos, pour moi, il est dépassé, et je vois, ce qui me fait peur, c'est l'entêtement de Zidane, en fait.
Alors je vais t'expliquer pourquoi Kroos est le joueur, et là je te parle d'informations qui sont très intéressantes. Kroos est sûrement le joueur le plus fiable, même physiquement, de tout l'effectif. C'est quelqu'un qui, en plus, a une qualité, et de la moindre petite blessure, il se remet tout de suite. Et ça, c'est quand même très important, parce qu'on parlait du manque de fiabilité d'un Gareth Bale. Tu sais que si Kroos se blesse au mois de mars, ça commence à devenir important, et ben, au bout de 10 jours, il est sur pied. Ben, c'est tout con, mais il a une qualité physique exceptionnelle, et c'est quelqu'un de très sérieux, et donc c'est un joueur fiable sur lequel on peut compter. Donc voilà la raison pour laquelle Kroos a prolongé son sur demande de Zidane. Voilà. Après, c'est pas un jugement que je fais. Modric, on sait très bien qu'il a plus 50 matchs dans les jambes. Modric va peut-être jouer 20 matchs cette saison. Et s'il y avait une offre importante pour Modric, il partirait. Mais sincèrement, après, je sais pas si Pogba c'est bien ou pas. Moi, je te dis que Zidane est obsédé par Pogba. Et le mot n'est pas fort.
Mais justement, c'est là où j'en reviens. C'est-à-dire que c'est plus moi, ce qui me fait peur, c'est plus l'entêtement de Zidane.
Il y a un plan, c'est ce qu'il veut faire.
Je suis un fan, j'étais le premier à être pour le retour de Zidane. Mais ce qui me fait peur, c'est que je pensais vraiment qu'en revenant, il allait imposer ses conditions, un renouvellement total. Eden Hazard, je valide totalement. Même comme si vous avez dit, au bout d'un mois, on peut pas trop juger. Moi, je suis persuadé qu'au Real,
Jovic, c'est un très bon joueur. Mendy, Marcelo, il a du souci à se faire. Hein. Parce que voilà, Mendy s'est blessé, mais Zidane est très content de lui.
Je suis encore une fois, je suis fan de Benzema, Karim Benzema, je suis un fan. Mais là, on voit bien qu'il, même si il a encore
meilleur. C'était le meilleur en après-saison. Non, mais c'était le meilleur de l'avant-saison là.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que
il a pas. Ah bah oui, t'as vu comment il est physiquement. Karim, il pèse 12 kilos là.
Je suis d'accord. J'ai vu, même moi, il m'a impressionné. À un moment donné, il faut un œuf qui vienne vraiment titiller.
Il s'appelle Jovic.
Ça fait 10 ans, Rachid, qu'on lui en met dans les pattes à Karim Benzema, d'autres numéros 9. Ça avait débuté avec Gonzalo Stelroy il y a plus de 10 ans.
Higuain, d'accord. Okay.
Rachid, il y a Jovic. Et Jovic est un concurrent pour Benzema, mais aussi un partenaire, parce que Zidane veut les faire jouer ensemble par moment aussi. Tu vois, donc
il veut les faire jouer ensemble, oui. Donc il y a. Voilà.
C'est pas moi, c'est Zidane. Il m'a dit qu'il peut jouer tous les deux.
Mais c'est bien ce que je te dis. Donc il y a vraiment un. Je pense pas, il sera pas capable. Je pense. Ce qui me fait peur, c'est que il a tissé des liens avec certains joueurs, certains cadres, et je pense pas qu'il soit capable en fait de retirer des comme ça aussi facilement des Kroos, des Benzema, des Modric. C'est le seul petit point qui me fait un peu peur sur la saison.
Ça peut être une question intéressante. On a connu ça avec la sélection espagnole, mais sincèrement, il sait ce qu'il veut faire. Tu peux pas dire que Kroos a une mauvaise saison l'an dernier parce qu'il venait du Mondial. Ça faisait plusieurs saisons où le Real Madrid allait jusqu'au bout. Les mecs étaient crevés. Là, il y a eu un de vraies vacances, au moins 4 semaines pour tous les joueurs. Il y a eu une vraie préparation de saison. Donc, un joueur comme Kroos, je pense qu'on peut, on peut encore en attendre beaucoup. Et Zidane en attend beaucoup.
Attention à l'affect, tu nous dis, Rachid. Hein. Attention à l'affect qui peut.
Ouais, mais ça empêcher, les a fait gagner l'affect aussi.
Hein. Empêcher Zinedine Zidane d'être pragmatique dans ses choix.
C'est vraiment c'est ce côté-là, c'est le côté affect.
On va passer au Barça. Merci, Rachid. Merci pour ta contribution. Parce qu'au Barça, on a deux choses dont on a besoin de parler, Fred. Alzheimer précoce des socios du Barça qui ont peut-être un petit peu sifflé Coutinho, par contre acclamé au trophée grand-père Antoine Griezmann.
Oui, ça va mieux. C'est vrai que Griezmann avait été copieusement sifflé lors d'un match de Ligue 1 entre l'Atlético sur le Barça au Camp Nou à cause de la non-venue de Griezmann l'an dernier. Là, bon, ça n'a pas été une ovation extraordinaire, mais bon, voilà. Puis Antoine est tellement un bon joueur, c'est tellement un bon mec. Mais franchement, je vois pas. Les supporters du Barça, quand même, ils connaissent le foot. Ils savent très bien que c'est un transfert fabuleux pour eux. Moi, je vous dis simplement, le Barça, je pense qu'ils ont une équipe sublime s'ils ne prennent pas Neymar. Parce que s'ils prennent Neymar, ça va être le bordel. Là, franchement, t'as une attaque avec Messi, Neymar, Suarez et Griezmann.
Suarez, Griezmann et Messi, l'attaque, ça va être ça.
Ah bah ouais, là, c'est quand même, franchement.
Après, au milieu.
C'est difficile de faire mieux.
Au milieu,
après, t'as De Jong.
Bousquet, De Jong.
Tu vois, t'as Arthur qui est encore
détachement
là,
enfin, total de Lionel Messi quand on lui pose des questions sur Antoine Griezmann pour l'instant.
Ah, Messi, déjà, il faudra qu'il pense à sa blessure parce qu'il démarre mal l'année.
Est-ce que ce qu'on a vu, Fred, alors, il y a beaucoup de gens qui ont interprété les images là, sur la sortie de Griezmann, sur la petite tape à Messi, bon, qui lui rend discrètement, tout le monde ne l'a pas vu, mais l'éloignement, tu le ressens comme ça toi aussi ou pas? Est-ce que Antoine Griezmann, il a du mal un peu à être accepté ou on lui fait. C'est un peu le bizutage par rapport à ses déclarations?
T'es une star, on t'a acheté cher, mais t'es au Barça. Moi, je m'appelle Messi, le patron sur moi. Il va falloir que tu gagnes ta place.
Je vais me faire descendre pour le premier soir. Messi n'est pas le coéquipier le plus sympa du monde, quoi.
Messi, de toute façon, personne.
Il est comme ça avec tout le monde.
Mais il a pas. Voilà, c'est pas le plus sympathique des mecs sur terre et des joueurs de foot.
Non, mais tu vois, tu les as vu les images.
Il a pas de mal à dire ça.
Il est sur le côté, tout seul, assis sur la glacière. Tout le monde discute, lui, il n'est pas intégré dans la discussion. Enfin, tu sens qu'il y a un petit malaise.
Moi, j'ai la chance de bien connaître Antoine Griezmann. Vu que c'était bonne chance à Barcelone, on s'est écrit, il m'invite à aller le voir et tout. Enfin, franchement, pour pas s'entendre avec Griezmann, faut vraiment être un gros con, quoi. Enfin, je vous le dis franchement, parce que Griezmann, c'est un type tellement sympa, c'est tellement un amour dans un vestiaire que Messi, même s'il est un peu froid au début, eh ben, il sera content d'avoir Griezmann. Après, la question que je me pose, elle est pas tellement au niveau personnel, elle est au niveau du terrain. Est-ce que Griezmann, qui depuis 5 ans quand même, ou surtout depuis 4 ans, à l'Atlético, était le vrai patron de l'équipe, va accepter de nouveau de se mettre au service d'un autre? Parce qu'au Barça, si tu veux réussir, tu te mets au service de Messi. C'est la question que je me pose.
Ouais, de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer.
Oui, mais je pense qu'Antoine a cette intelligence-là. Mais est-ce que par moment, il n'y aura pas des petits réflexes, etc., d'être un peu plus
leader? Non, je ne pense pas.
Je ne sais pas.
En tous les cas, Fred, Antoine Griezmann risque de coûter encore quelques sous au Barça. Bataille administrative, un mail qui pourrait coûter le différentiel. Vous savez, le 1er juillet, la clause était passée de 200 à 120. Oui, mais Fred.
Oui, mais le propriétaire... Le directeur général de l'Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, dit depuis des semaines qu'il a la preuve que les négociations entre Griezmann et le Barça ont débuté avant l'abaissement de la clause. Et donc, à ce moment-là, la clause est à 200, donc c'est 200 et pas 120. Et aujourd'hui, le journal d'information générale El Mundo, qui est un bon journal, a révélé que Miguel Ángel Gil était en possession d'un email où il y avait les négociations, notamment avec l'avocat d'Antoine Griezmann. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y avait un type qui était dans le deal il y a un an, au moment des négociations. Cette personne n'est plus dans le deal et cette personne se venge un petit peu en balançant des infos. Voilà ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle le journal El Mundo et l'Atlético ont eu...
Ça paraît une évidence, Fred, qu'il y ait eu des discussions avant le 1er
juillet. Oui, mais juridiquement, bien sûr, mais tout le monde le sait. Sauf que juridiquement, quand un club veut vraiment se retourner, après, ça dépend de ce que va décider la justice sportive.
Est-ce que ce mail a un poids juridique?
D'après Miguel Gil, premier concerné, oui, et c'est ce qui va, servir à la défense de l'Atlético pour réclamer 80 millions de plus. Et ça, ça nous renvoie vers le cas Neymar, parce que déjà qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter Neymar, si en plus ils doivent rajouter 80 millions pour Griezmann, je vois pas comment ils peuvent acheter Neymar, quoi. Ça me paraît.
Aujourd'hui, est-ce qu'en Espagne, ce serait considéré comme une surprise si d'un coup Neymar arrivait au Barça? Et est-ce qu'on ne considère pas là-bas comme ici que plus le temps passe, moins il s'approche du Barça?
Moi, ce qu'on me dit ici, de gens bien informés, c'est que le PSG veut vraiment se débarrasser de Neymar, mais que le PSG veut surtout pas l'envoyer au Barça.
Ah bah, ils vont l'envoyer où alors?
C'est encore une histoire de remontada?
T'as pas 50 clubs, hein?
Bah non, t'as pas 50.
T'as Real, la Juve.
Et puis alors, le Real, alors moi je vais pas.
United fait tellement n'importe quoi pour avoir une surprise.
Ouais, mais bon, United, non. Alors, c'est ce que disait un journal catalan aujourd'hui.
Lui, il va jamais aller là-bas.
Non, il n'y a pas la Ligue des Champions.
Attends, Cristiano Ronaldo peut lui envoyer un mail en lui disant c'est là-bas que j'ai été titré en premier, vas-y. Il le dit à Dybala.
Et le Real, ça pourrait les tenter?
Alors,
s'ils font pas Pogba.
Alors, non, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, le truc, c'est
ça va avoir un peu au niveau des sous quand même.
Ils espèrent encore vendre Bale et Rames quand même. Hein. Ah. Et le Real a bien vendu quand même. Hein. Ils ont vendu pour plus de 200 millions quand même. Hein, faut pas croire. Hein. Donc, tu sais, même un Raúl de Thomas à 15 millions, bah, c'est 15 millions, plus Llorente à 30. Plus, voilà, tu vois, ils ont quand même, il y avait quand même beaucoup de joueurs et le Real a bien vendu. Donc, et puis le Real avait un solde positif, plus de ventes que d'achats ces dernières années. Donc, ils sont pétés de thunes. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de l'argent. Simplement, il y a des gens au sein des dirigeants, surtout après le 7-3, la claque face à l'Atlético, qui se disent, ah ouais, pourquoi on fait pas Neymar? Parce qu'on sait très bien ici que, vu les bonnes relations entre le PSG et le Real, s'il y avait l'ouverture de Neymar pour le Real, le PSG le vendrait, quoi, au Real. Simplement, ça veut dire quoi? Si tu fais venir Neymar, c'est-à-dire que c'est plus la peine de rêver un jour prochain à Mbappé, qui est quand même le grand objectif. C'est ça, si tu fais venir Neymar, parce que dans la tête des dirigeants du Real, je vais vous raconter, maintenant que le PSG veut se débarrasser de Neymar, il est évident que Mbappé ne peut plus partir. Donc au Real, on se dit, on va attendre, on va surtout attendre une chose qu'aurait promise Mbappé, c'est-à-dire de pas prolonger son contrat, et que plus les années passent, plus la fin du contrat avec le PSG se rapproche, et moins cher et serait Mbappé. Mais si tu veux venir Neymar, tu peux pas espérer avoir Mbappé l'année prochaine. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait pas une réaction? Parce que, rappelez-vous, alors que le PSG négociait il y a 2 ans l'achat de Neymar, le président Pérez était en contact téléphonique permanent avec le père de Neymar. Ça a toujours été un contact habituel. Donc, ça serait quand même très bizarre, surtout que Zidane, un joueur comme Neymar, c'est pas vraiment le type de footballeur et le type avec l'hygiène nécessaire de vie et professionnelle pour. Et j'insiste sur ce mot, la fiabilité, c'est quelque chose d'essentiel pour Zizou. On peut pas dire que, avec ses blessures, Neymar était un joueur très fiable avec le PSG. Mais vous savez, moi, j'ai vu tellement de trucs ces dernières années avec les transferts que je veux vraiment pas m'avancer, parce que. Voilà, moi, je vous raconte ce qu'on me dit là, mais voilà, il faudrait pas que le Real Madrid perde les 2 prochains matchs. Il joue contre Salzbourg et contre la Roma ou alors qu'il perde à Santander, à Vigo le 17 pour le premier match de la Liga.
C'est fou, c'est que les matchs de préparation peuvent mettre au feu, quoi.
Bah oui, Daniel, tu sais bien que l'Italie, c'est pareil. Ils ont été sevrés de football là pendant un mois.
Plus trop, parce que vu le niveau des clubs comme ils baissent là, ils en sont plus à ce genre de
Fred, puisque tu parles du calendrier, l'Atlético va débuter à domicile, derby contre Retafe, et tu nous dis meilleur recrutement des trois géants pour les Colchoneros.
C'est-à-dire que c'était faut quand même voir que, alors je prends la liste, on peut pas dire de conneries, que l'Atlético a quand même perdu son leader Griezmann, ils ont perdu un autre leader de la défense.
Griezmann.
Diego Godin, quand même. Ils ont perdu Lucas Hernandez. Ils ont perdu Juan Fran, Philippe Luis et Rodrigo, qui est parti à City. On se dit, pas l'Atlético. Eh ben, vous regardez les mecs, ils ont quand même acheté le joueur à la mode, João Félix, qui fait des petites merveilles dans les matchs de préparation. Ils ont quand même fait venir Mario Hermoso de l'Espagnol Forme Real, qui est un excellent défenseur central. Donc, Mario Hermoso, José María Jiménez, franchement, ça tient la route.
Ils ont fait un recrutement en Liga.
Hector Herrera, qui a 3 points.
Et Porto, Kieran Trippier.
C'est un très bon joueur.
Kieran Trippier, qui a une jambe de plus. International anglais.
Comme on appelait Vicente Del Bosque à l'époque dans le vestiaire. Mais c'était pour d'autres raisons. Et donc, faut faire un peu d'histoire, ça fait pas de mal.
Ouais, c'est important de savoir ces choses-là.
Mais sérieusement, l'Atlético, ils ont fait ça très bien. Et puis, surtout le 7-3 contre le Real, ils sont gonflés à bloc, là. Et puis, il y a une chose très importante. Simeone est un mec bien et c'est surtout un entraîneur très intelligent. Ça aurait été facile pour lui de descendre Griezmann. Alors, les journalistes ont essayé, etc. Oui, c'est un traître, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais ce qu'il pense vraiment, Antoine est un mec bien, pendant 5 ans, il nous a donné beaucoup de bonheur, il a été irréprochable, je ne veux pas juger 5 ans sur une décision, un jour à la fin. Ce qui fait qu'aujourd'hui à l'Atlético, le cas Griezmann n'est plus qu'une question administrative. Ce n'est pas un nom, c'est pas quelque chose qui perturbe le vestiaire, etc. Voilà, Griezmann, c'est le passé d'un point de vue sportif. Ce qui fait que Simeone, il a pu préparer sa saison, et très bien sa saison, sans l'ombre de Griezmann au-dessus de l'équipe. Et ça, je trouve ça très intelligent de sa part.
Belle lecture, effectivement, pour rasséréner ton vestiaire et passer à autre chose. Ouais. On se retrouve très vite, Fred, évidemment, pour parler de l'Espagne, mais de la Liga.
C'est quand le prochain match amical du Real?
C'est mercredi à Salzbourg. Et puis après, il y aura à la Roma, ça sera un match important.
Mais voilà, et on le redit.
Mais Fred, est-ce que finalement... Les défaites là, ça servirait pas un peu finalement faire un mauvais match encore, ça servirait pas les intérêts de Zidane pour récupérer Pogba?
Alors, je pense qu'il s'en passerait du mauvais match, hein, Ludo.
Il se passerait du mauvais match. Moi-même, parce que j'ai l'esprit tordu, j'essaye toujours de voir.
Et Ludo Bragnac, alors il est pas bien machiavélique, lui.
Ben, c'est pour ça, tu sais, c'est un ch'ti quelque part, Ludo. Donc, on est comme ça, on regarde l'autre côté. Je me dis que finalement, ça peut pousser le Florentino à lâcher les thunes pour Pogba. Moi, je reste persuadé que Pogba va venir parce que, les mauvais matchs, quand même, ça sert un peu Zidane, pour ça. Après, voilà, Zidane, moi je lui ai parlé, il est persuadé, le mot qu'il a employé avec moi c'est « on va être très fort ». Bon, on va lui faire confiance, non ? En tout cas lui il croit.
On va être très fort. Cinq mots, comme d'habitude, taiseux mais efficaces. Merci beaucoup Fred.
Content de vous avoir retrouvé les amis. Alors Daniel, mes vacances ça va, ça s'est bien passé, j'ai pas fait de grave erreur.
Non, je suis très étonné que tu te sois contenté d'aussi peu. D'habitude tu voyages toujours un petit peu plus.
Oui mais tu sais, j'ai une grosse saison.
J'étais très discret cette année.
J'étais fatigué, donc tu sais, un moment être pas trop voyager.
Attendez à ce que tu me fasses un peu rêver, parce que c'est pas avec l'allemand et l'anglais qui vont arriver maintenant qu'on va rêver.
Il
se fait dorer à coups de nuages en mer du Nord et l'autre qui était à Plymouth. Alors,
lui aussi, Fred, il a fait 1500 km au nord.
D'habitude, il va toujours un peu au soleil.
Vrai que j'ai fait des beaux voyages. Ouais, mais tu sais, j'avais fait le Québec à Noël, tout ça. Donc,
moi, je te dis, Athènes, l'année dernière, c'était plombé. Là. Ouais. C'était rester une semaine à 40 degrés, là, ça t'a fondu le cerveau.
Grave.
Quand je fais des grandes vacances, ça va pas. Quand je fais des vacances modestes, ça va pas.
Bah, tu connais Daniel, ça ne va jamais.
Ah non, moi avec toi, j'attends pas des vacances modestes. Moi, je veux que tu t'envoies du kiff. Hein.
Allez.
Hasta pronto, Fred. On retrouve effectivement Julien Laurence avec la première ligue dans un instant.
C'est
Polo Breitner. Non, c'est Polo Breitner d'abord.
C'est d'abord Hambourg, alors.
Absolument. BVB, Bayern et Schalke 04 au programme de notre page allemande. C'est l'after sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Thomas Desson.
Avec Ludovico Bragnac, avec Daniel Riolo, émission en bimédia, à la radio, à la télé. On est dans notre page européenne avec Polo Breitner qui nous rejoint. Salut Polo, la Bundesliga reprend le 16 août. Bayern de Munich, Hertha, il y aura un tour de Coupe d'Allemagne avant cela. Est-ce que le Bayern a digéré, pardonne-moi, sa défaite de 0?
Il va démarrer comme ça là.
BVB.
Je commence comme ça sans dire bonjour.
Je l'ai pas entendu.
Et à Daniel quand même un petit peu.
Polo, j'étais en train de regarder, mais j'arrive pas à savoir là si t'étais dans la baie de Lübeck ou est-ce que t'étais dans la mer Baltique là.
Non, j'ai pas du tout pris de vacances.
Oh non, quel DCP. Mais c'est fou cette année, ils sont
décevants. Finalement, t'es un médium, c'est ce que t'avais dit. Il va rien faire, Polo.
Ah non, Polo, je vais vers Hambourg, par là-bas, tu vois, ou en Excel.
J'ai pas mal de choses à faire, donc voilà. J'ai pas pris de vacances. Je les prendrai en hiver, quand il fait moins 20.
Oui, c'est
comme ça, t'as pas besoin d'acheter les glaces, tu les trouves tout de suite par terre. C'est bien.
Voilà, c'est ça qu'il aime bien, Polo, tu vois, c'est le froid, c'est...
Ah, moi, dès qu'il fait plus de 10 degrés, je mange une glace.
On est en train de chercher les plages les plus difficiles, finalement. Est-ce que c'est du côté de Brême, d'Hambourg, carrément, quasiment au Jutland, au Danemark?
Attends, mais tu sais que je suis tombé en déconnant, Polo.
Il y a des îles réservées pour les riches, là-bas. Ils ont même Alors ça, c'est typiquement allemand en plus. Alors j'ai oublié le nom de l'île, faudrait que je la retrouve. Les riches allemands bourgeois qui voulaient partir dans le nord de l'Allemagne, on leur a même construit des lignes ferroviaires exprès pour les Mercedes.
Ah oui.
Il paraît qu'à Rostock, c'est pas si mal, Rostock.
Alors attends, je suis tombé en déconnant, en cherchant les destinations possibles pour Polo. Je suis tombé sur un site, là, les 10 plus belles plages d'Allemagne. Il y a des photos, c'est un truc de malade. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il fait beau, mais si t'arrives à choper 2 jours de beau temps, il y a l'île de Sylt.
C'est ça, Sylt, c'est l'île de Sylt.
L'île de Sylt, c'est extraordinaire, les images que je vois. Après, t'as la baie de Lübeck.
Ouais.
Ah non, mais il se moque de toi, Polo, mais lui, Riolo, sud de l'Italie, il est cliché aussi.
En train de découvrir là, mais super.
Daniel, en fait, il faut juste savoir
à quel moment t'as un rayon de soleil, quoi.
Je sais plus, il y a 2 ans ou 3 ans que Daniel a découvert Berlin. En fait, il est tombé amoureux, mais comme c'est un sudiste, il veut pas le dire, quoi. C'est tout. C'est ça.
Ironie du sort.
J'ai appris récemment qu'à Berlin, il y avait.
Le RK.
Non, il y a à peu près plus de une vingtaine de restaurants siciliens de mecs pas loin de mon village en Sicile qui a ouvert à Berlin, t'imagines un peu?
L'envahissement
à Berlin.
Mais non, mais de toute façon, il y a une grosse colonie italienne en Allemagne. Hein. C'est notamment lié à, on en parlera, je pense, un petit peu tout à l'heure, mais l'immigration dans la Ruhr après 1945. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Mmh. Avant, il y avait les descendants de Ludo. Et ensuite.
Mais non, les descendants de Ludo ont été un peu moins bien traités quand même.
Les précurseurs à Ludovico Bragnac, il y avait les Polonais. Et après 45, c'était les Italiens, c'était les Turcs, c'était les Yougoslaves.
Ironie du sort, Polo, le Bayern, ça y est, allait enlever ses oursins coincés dans les poches, était prêt à débourser plus de 100 millions pour un joueur, en l'occurrence Leroy Sané. Ça va être en fonction de sa blessure.
Bah, écoute, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'état de sa blessure, ce qui a surpris un petit peu en Allemagne quand même, parce que on ne va pas dire que le transfert a été fait à 100%, puis on sait que pour des montants, c'est toujours, tant que la signature n'est pas faite, on sait très bien que ça peut rater. Ce qui est sûr, c'est que ça a surpris beaucoup de personnes en Allemagne, le fait que Leroy Sané soit titularisé contre Liverpool. Donc, est-ce que c'est vraiment fait? Est-ce que la blessure risque de tout faire capoter? Ce qui est sûr, c'est que le Bayern Munich, au jour d'aujourd'hui, a l'effectif le plus restreint des clubs de Bundesliga. Ils doivent absolument recruter. Ce qui est intéressant, c'est que les montants ne sont pas dans les habitudes du Bayern Munich. Alors, est-ce que cela veut dire que le Bayern Munich, finalement, quoi qu'en dise Uli Hoeneß, va devoir s'adapter à la nouvelle donne mondiale? Peut-être, c'est un peu compliqué à dire, parce que n'oublions pas que l'année dernière, le Bayern Munich...
Ils vont pas continuer Milan à faire les raclos, Polo, quand même. À un moment,
il y a plusieurs choses qui sont en jeu, en fait. Il y a un, le Bayern qui ne fait rien depuis 2-3 ans, c'est-à-dire quand il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas. En gros, depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont tenu avec cette génération, ils ont plus ou moins dégagé certains joueurs, et finalement, ils se rendent compte que le marché a évolué, et ça, c'est une grande spécificité du Bayern Munich, c'est pas forcément de prévoir l'avenir. Je rappelle juste que Leroy Sané, il était juste à Schalke en 2016, il y avait encore un entraîneur à l'époque qui s'appelait Pep Guardiola au Bayern, et je pense que Pep Guardiola a dû quand même en parler dans les bureaux à Uli Hoeneß Rummenigge, qui avait un joueur qui s'appelait Leroy Sané, qui était intéressant. À l'époque, City l'a acheté 50 millions, aujourd'hui il vaut quasiment 2 fois, 3 fois plus. Donc au niveau de la gestion, si tu veux, c'est pas quand même terrible ce que fait le Bayern Munich.
Oui, c'est plutôt étonnant de leur part. Oui. Non, mais là,
c'est assez classique. Hein. Le Bayern n'est pas forcément précurseur sur tout ce qui est les joueurs qui sortent du centre de formation. Il y a des très bons joueurs aujourd'hui qui sont en Bundesliga, qui justement venaient du centre de formation du Bayern, qui feraient des backups tout à fait intéressants. Je pense à Weiser qui est à Leverkusen, par exemple. Donc là, si tu veux, c'est un peu compliqué. Il y a quoi? Il y a peut-être que 14-15 joueurs qui sont vraiment intéressants pour le poste de titulaire au Bayern Munich. Il y a personne pour remplacer Alaba, sauf à décaler Lucas Hernandez, le Français. Ça veut dire que tu changes ta défense centrale, et en général, les entraîneurs n'aiment pas ça. Kimmich, c'est Pavard. On sait très bien que Pavard va passer son année sur le banc. Au milieu de terrain, il y a 5 joueurs.
Ah bon? Je sais pas, moi, ça. Dis-le moi.
Bah, Daniel, on peut pas prendre la place à Kimmich, Pavard, comme. À moins qu'il joue dans l'axe.
Mais pareil, dans l'axe, ça va être
plus de côté. Le chantier au départ.
Attendez, moi je veux bien. Moi, je vous écoute. Je, c'est, c'est, vous, plus spécialiste de l'Allemagne. Moi, je pensais qu'il arrivait pour être titulaire dans l'axe, ah, Pavard.
Non.
Bah, explique-moi ça, pour le moment, ça m'intéresse. Moi.
Ça va être c'est Zule et Lucas Hernandez dans l'axe.
Ouais.
Et si Lucas Hernandez décale à gauche, il est possible qu'il joue ou pas?
Au jour d'aujourd'hui, il sera en lutte avec Jérôme Boateng, qui a encore été assez catastrophique ce samedi soir.
Il n'arrive pas à se reprendre, lui. C'est vraiment la pente descendante et il reviendra pas en arrière, Boateng.
Moi, j'ai du mal à croire qu'il revienne, quoi. Il va sur ses 31 ans.
Pourtant, c'est quand même pas vieux pour un joueur qui était aussi fort que ça.
Bah ouais, mais c'est un camion aussi. C'est quand même. C'est plus. Il a pas le
camion
profil
diesel.
C'est
pas du temps.
1m90. C'est 90 kilos. C'est compliqué.
C'est plus à la mode. Donc, le diesel en plus. Hein.
1 sur 2, ça va. Quand tu commences à en mettre 2, ça devient compliqué parce que samedi, Zule Boateng en début de saison, ça fait peur.
D'accord. Donc on a toujours un problème. Kingsley à droite et à gauche Leroy Sané ou autre chose.
Ah, il faut qu'il recrute là devant. Mais après,
c'est ce que tu disais l'autre jour. Après Robin Ribéry,
il a le sentiment qu'il faut un peu du monde. Il faut du lourd.
Il faut du lourd.
Écoutez, j'ai travaillé un petit peu aujourd'hui en revisitant la finale de Ligue des Champions de 2013 contre Dortmund. En fait, quand tu regardes l'équipe d'aujourd'hui, elle est pas si mauvaise que ça par rapport à 2013. Mais il y a deux joueurs qui ne sont plus là. C'est Robben et Ribéry. C'est-à-dire, j'ai fait des petits calculs là, savants, moi qui aime très peu les statistiques. Robben et Ribéry, le duo, ils sont décisifs dans un match, pendant leur décennie, ils sont décisifs 8 fois sur 10. Coman et Gnabry, c'est 5 fois sur 10. Donc, faut pas se leurrer. On n'a pas le même niveau de joueur aujourd'hui.
30% des cas.
Non, mais c'est très important. Coman, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur exceptionnel. Gnabry, c'est un bon joueur, c'est pas des joueurs exceptionnels. Ils vont passer derrière, ils passent, je dirais même, derrière Ribéry et Robben, et ça va être très très compliqué. Ils ne font pas la différence comme le faisaient Ribéry et Robben à leur époque. Ce qui fait qu'en fait, le Bayern aujourd'hui, il a qu'une seule chose à faire, il cherche Lewandowski. Lewandowski, les autres, ils ont compris, ils se mettent à deux sur lui, il a pas de place. C'est pas compliqué. Ça ne joue pas assez sur les ailes aujourd'hui au Bayern Munich. Leroy Sané, qui est très intéressant. Le problème, c'est pas de dire que c'est un bon joueur, Leroy Sané. C'est qu'il faut qu'il se mette au niveau de Ribéry ou de Robben. C'est tout. C'est pas pareil.
Polo, Gnabry et Coman, c'est pas eux qui justement jouent, qui a aussi dans l'équipe qui amorce la remontée justement contre Dortmund, qui a pas changé non plus fondamentalement son 11 de départ. Ils étaient pas déjà dans l'équipe à ce moment-là. Robben, Ribéry, ils jouaient plus trop déjà à ce moment-là.
Non, mais justement, c'est qu'en fait, déjà l'année dernière...
Donc ils ont une capacité à pouvoir se mettre quand même au niveau...
Non, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes.
Autant s'ils prennent Leroy Sané, je te dis que c'est un mec qui peut aller et marcher sur les traces, je lui souhaite, mais on va dire comme ça sur le profil, Robben, Ribéry, qui ont quand même fait des carrières incroyables.
Coman, s'il n'est pas blessé...
Leroy Sané, quand même, en qualité... C'est largement en dessous. Leroy Sané, il va tirer des coups francs, il va déborder, il va faire des décalages. Leroy Sané, c'est au-dessus.
Chaque fois qu'il joue, franchement, Coman, à chaque fois qu'il joue au Bayern, quand il n'est pas blessé, quand il n'a pas de pépin physique, c'est ça, c'est...
Non, mais c'est un bon joueur, mais pour moi, c'est pas, c'est vraiment, ça sera
exactement.
Jamais Robben
Ribéry. Et puis, Leroy Sané
non plus. Leroy Sané, c'est au-dessus.
Messieurs, je voudrais vous emmener sur un terrain plus large, le terrain sociétal. Vous le savez, le football, c'est un microcosme du monde, un miroir. Et on a des propos du président de Schalke 04 tenu jeudi dernier. Ça a mis un moment, Polo, avant de réagir, puisqu'on en a eu vent aujourd'hui. C'est les propos de Clemens Tönnies, tu me diras si je le dis bien, mais spécialisé dans l'industrie alimentaire, des revenus de 8 milliards, il est spécialisé dans le cochon. Bah là, le porc, ça lui va bien. Écoutez ça, mais j'ai besoin de comprendre avec toi le contexte. Il nous a dit, le dirigeant de 63 ans, qu'il faudrait construire davantage de centrales électriques en Afrique, de sorte que les Africains arrêtent d'abattre des arbres et de faire des enfants dès qu'il fait sombre. Réponse du Nathalie Bois de la Tour allemand, à pointe mais sans talons, donc Reinhard Raubal, qui dit de telles déclarations sont complètement incompatibles avec les valeurs du football. D'où sort ce contexte pour le président de Schalke 04?
Juste rappeler que Reinhard Raubal est quand même l'actuel président du Borussia Dortmund, c'est pas neutre non plus. lorsqu'on connaît Schalke, l'opposition qui est entre Schalke et Dortmund. Bon, par rapport à ce qui s'est passé, moi j'ai appelé quelqu'un que je connais très bien en Allemagne, qui m'a donné des informations, je pense, assez confidentielles sur ce qui s'est vraiment passé. Donc tu l'as dit, Clemens Tönnies, c'est un industriel bien connu en Allemagne, un milliardaire qui a 63 ans, il est fils de boucher, faut pas l'oublier, parce que il est dans un secteur d'activité extrêmement dur. Pourquoi ? Je cherche pas d'excuses, hein. Loin de moi de chercher des excuses sur ce qu'a dit Clemens Tönnies, mais ce que je veux dire pour simplifier aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'est que c'est pas quelqu'un qui vient du café de Flore, d'accord ? C'est très important ça, la vie qu'il a menée. Il fait aujourd'hui partie des 100 Allemands les plus riches, dont il est milliardaire. Et en fait, c'est son frère Bernd Tönnies qui avait créé la société, une société. Donc, pour simplifier, il s'occupe de la sous-traitance. De la viande porcine, pour simplifier, c'est les abattoirs. C'est un formidable succès. Et c'est quelqu'un qui a récupéré la succession de son frère, parce que son frère a disparu à 42 ans, et son frère était un fan de football. Il était déjà au directoire de Schalke 04. Donc lui, il a récupéré la succession. C'est un petit peu bizarre ce qui s'est passé. Par contre, ce qu'on m'a dit jeudi dernier, c'est qu'il a eu... Alors, il s'est lâché, tout simplement. Il s'est retrouvé, dans un forum où il va apparemment chaque année, qui s'appelle le Jour des Artisans, où on discute, où il a retrouvé beaucoup d'anciens amis.
Un salon de l'agriculture, grosso modo.
Oui, c'est ça. Sauf que c'est pour les professionnels de l'artisanat. Et si tu veux, il s'est retrouvé autour d'amis, comme s'ils étaient en train de boire une bière autour d'une table, et il a sorti cette phrase qui est un racisme pur. Ça s'appelle d'ailleurs du racisme d'époque, c'est-à-dire que tu recycles des vieilles idées sur l'image de l'Africain noir, en l'occurrence, en pensant apparemment qu'il n'y avait pas trop de personnes, et il s'est vraiment lâché, c'est-à-dire qu'il était dans une bande de copains. Donc, ça ne se dit pas, évidemment.
Ouais, c'est presque pire, en fait.
Pardon ?
C'est presque pire, parce que si tu le fais alors que tu viens, on a l'impression que c'est ta nature profonde qui s'exprime un peu.
Mais c'est pour ça que j'ai rappelé l'histoire de Clemens Tönnies, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui est dans un secteur d'activité extrêmement difficile, très concurrentiel.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, et il va être
Il passe à la commission d'éthique du groupe de Schalke 04, qui est composé de 5 personnes.
On demande sa démission, Daniel.
Pardon ?
On demande sa démission.
Il y a beaucoup de choses. Il passe sur la commission d'éthique où il s'explique. Il y a 3 juristes. Il y a un conseiller fiscal et, moi j'ai adoré, il y a un pasteur évangéliste. Donc c'est les 5 personnes qui vont interviewer ou qui vont demander à Tönnies de s'expliquer. Ce qui est intéressant, beaucoup de personnes évidemment demandent sa démission. Il semble aujourd'hui extrêmement difficile qu'il garde sa place, mais il faut aller un peu plus loin. Clemens Tönnies, c'est le premier bailleur de fonds de Schalke 04. C'est-à-dire que moi, s'il décide de laisser sa place, que
mais
beaucoup de personnes...
Mais c'est ça que je demandais, s'il se barre, il n'y a plus l'oseille dans le club, c'est ça ?
Ça peut être ça, en fait. Alors, il n'y a pas que ça, c'est très compliqué.
Mettre le club en péril, quoi.
De toute façon, tu sais, Schalke 04, le problème, moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, en dehors des propos qui sont insupportables, c'est que, encore une fois, ça tombe sur Schalke 04. C'est ce club à scandale du football allemand.
Polo, oui. c'est pas que en ce moment il y a ce communautarisme exacerbé, ça se fusille aux États-Unis. Aujourd'hui, oui. Après être arrivé il y a quelques jours, Malcolm va partir du Zénith Saint-Pétersbourg.
T'éloignez pas de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne il y a eu une autre affaire, c'est celle de Dortmund avec les commentateurs qui se sont lâchés là. Et tu as vu cette affaire, Polo, là, sur les mecs là qui commentaient le Dortmund Udinese.
Oui, le problème aujourd'hui, et c'est ce que je sens, c'est qu'on est en train de se libérer la parole, pas qu'à l'Est. Hein. Quand je dis l'Est, c'est l'ex-RDA, puisque je ne sais pas si vous avez vu ce qui risque d'arriver, c'est que le parti d'extrême droite, en l'occurrence l'AFD, va arriver au pouvoir dans certaines régions de l'ex-Allemagne de l'Est, et c'est dans un mois. On est en train de libérer une parole qui était, on pensait enfouie, en tout cas complètement oubliée. Et je suis assez d'accord avec toi, Thomas, sur le fait que tu as un peu un sentiment dans le monde. Je pense à Trump, évidemment, hein, parce qu'il faut voir un peu ce qui sort quand même comme ânerie à longueur de journée, où tout le monde se libère un petit peu de tout ce qui se passe. Je comprends pas trop pourquoi.
Le terrorisme aux États-Unis, il est blanc. Daniel me dit, fais pas de digression, oui. Mais par rapport à ce qu'on dit là, les langues se délient.
Ah non, mais je t'ai la pas banderole. Pas digression, je voulais rester sur l'Allemagne.
Bien sûr, mais non, mais c'est après, mondial. Mais ce problème de nationalisme, regarde, c'est parce que la banderole qui fait que Malcolm est contraint de s'en aller, c'est marqué dans la banderole
des supporters. L'absence de joueurs noirs est une tradition. Merci aux dirigeants de respecter les traditions. Malcolm vient d'arriver. C'est un joueur atypique, singulier, extraordinaire. Il va être contraint de se barrer.
Non, alors ça, on n'en est pas sûr du tout, parce que ça a été démenti par les dirigeants du Zénith. Son départ est plus forcément d'actualité maintenant. D'autant que Hull, qui est intervenu dans cette affaire, l'ancien joueur du Zénith, pour dire que il y avait une mauvaise interprétation de ce qui était dit. Moi, je répète ce qui est dit. Hein. Je ne sais pas quelle est la réalité des faits. Et Hull qui a même félicité les supporters pour leur attachement au club, aux valeurs et tout. Bon, est-ce que ça suffira à ce que l'affaire soit étouffée? J'en sais rien, mais bon, de toute façon, on découvrira pas aujourd'hui qu'en Russie,
Thomas, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais du racisme en Russie quand même.
C'est pas nouveau.
Il faut pas tout mélanger, par contre. Parce que je vais vous donner une affaire qui était sortie il y a un peu plus d'un an. Les médias français l'ont très bien relayée. C'est l'affaire Özil en Allemagne, d'accord? Özil a parlé de racisme, d'accord? Je n'ai pas entendu sur une seule chaîne française d'info ce que Mesut Özil s'est pris dans la tronche par ses collègues turcs musulmans qui sont réfugiés en Allemagne par rapport au régime Erdogan, d'accord? J'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu dans un seul média français. J'ai suivi ça pendant plus d'une semaine. Je n'ai pas entendu un seul média français qui a relayé ce que les Syriens musulmans qui sont réfugiés en Allemagne par rapport à ce qui se passe avec la Turquie ont balancé sur Mesut Özil. Donc il faut faire aussi très attention à ce qu'on dit. Et aujourd'hui, moi ce que je regrette par rapport à ce qui s'est passé avec Mesut Özil, c'est qu'il y a un an, il a dit c'est du racisme, boum, voilà. C'est plus compliqué que ça souvent. Le cas de Schalke 04 est différent. Clemens Tönnies a complètement déconné en se lâchant, qui est peut-être, comme le disait Daniel, sa nature profonde. Moi, on m'a fait comprendre en Allemagne, avec la discussion que j'ai eue il y a trois heures, que, en gros, c'était pas un philosophe, c'était pas un grand philosophe, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il faut pas tout mélanger, dans ces choses-là. Ensuite, vous dites que Rainer Holbald qui dit les valeurs de foot n'ont rien à voir avec les valeurs de football. Moi, les valeurs de football professionnel, je les connais pas, hein. Faut qu'on m'explique, hein. Donc, oui.
Non, pardon. J'allais te dire. Vas-y. Non. Dernier mot. Justement, tu nous fais la passe décisive. Tu nous parles de Mesut Özil. On va parler sportivement de Mesut Özil avec Julien Laurence dans un instant. Savoir si c'est Mesut ou Mazout Özil pour Arsenal. Et te remercier. Si tu veux le mot de la fin là-dessus, vas-y. Parce qu'il faut qu'on file en Angleterre.
Non. Mais je laisse la parole à Julien.
Eh bien, alors, on te remercie. On te dit bonne nuit, on te dit tchussi. Et on se quitte avec un sourire, on te dit quand même essaye de partir en vacances à un moment donné, cet hiver. Salut Polo, c'est l'After sur RMC. On revient dans un instant avec la Première Ligue qui débute dans 4 jours. Calm down, EPL, à tout de suite.
RMC, l'After Foot, Thomas Desson.
Ensemble jusqu'à minuit, good evening, avec Ludovic Obraniak, avec Daniel Riolo et avec Julien Laurence. On a un petit peu débordé parce que Fred Hermel, désolé Julien, voulait absolument nous raconter ses vacances. Très déçu, c'était dans le Pas-de-Calais. Donc on file outre-Manche. Et c'est ce que disait Ludo en off tout de suite. Le fait que ce mercato s'arrête très vite, c'est le déséquilibre en Europe, Julien. Est-ce qu'il n'est pas relativement calme jusque-là, néanmoins, ce mercato anglais?
Si, tu as raison Thomas, salut à tous. Salut, un petit peu plus calme que d'habitude, on va dire, parce que les grosses puissances...
dans les prochains jours.
Il s'accélère toujours, Ludo. Ouais. Dans les, tu sais, comme s'il se réveillait un peu la dernière minute. Tu sais, ils ont toujours.
C'est là qu'il y a
toujours
des trucs qui vont tomber, des joueurs anodins à 30 millions. Ça va tomber comme ça, là. Bim, bim, bim.
C'est clair, comme ça. Et puis des clubs, c'est très moyen, ou voire même de Championship ou de seconde zone en Première Ligue, qui vont se mettre à dépenser tout l'argent qu'ils ont des droits télé, par exemple, etc. Mais toujours à la dernière minute, comme si c'était plus facile de faire des transferts à la dernière minute qu'en temps normal, avec un petit peu de planning avant. Tu vois, un petit peu des trucs où tu réfléchis.
Minuit, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que les Anglais voulaient, hein, d'ailleurs. Eux en avaient marre que tu puisses commencer la saison en ayant encore la possibilité de perdre des joueurs, notamment dans les plus petits clubs. Donc c'est eux qu'on fait le forcing pour que dans leur championnat ça s'arrête, en tout cas au niveau des arrivées.
Et ça va forcément donner le ton du reste, parce que ça fait des débouchés en moins pour les clubs qui voulaient vendre là-bas. Des endroits, bon, c'est rare que les Européens non-anglais aille chercher là-bas, mais en l'occurrence on attend l'éventuel transfert vers le Real de Pogba ou non, on saura tout ça dès jeudi, quoi.
Mais le problème qu'ils ont eu, en fait. Oui, mais le problème qu'ils ont eu, c'est que Au niveau des départs, en revanche, là, tu peux aller jusqu'à la fin des autres transferts, des autres marchés estivaux. Mmh. Ça veut dire que tu peux plus acheter, mais en revanche, tu peux toujours te faire prendre des joueurs à toi.
Il y a encore 3 semaines pour.
Et c'est là où le truc c'est bizarre.
Il est un peu pervers le truc. Ouais.
J'avais pas compris.
Dans les arrivées, t'es bloqué jeudi soir. Dans les départs.
Ouais, mais quelque part, il y aura un indice parce que si Manchester a pas, si tu vois que Manchester recrute très lourd avant jeudi. Tu dis bon, ça veut peut-être dire que Pogba part, mais si l'effectif bouge pas à Manchester, ça va être difficile d'envisager que le 25 août il se débarrasse de Pogba, tu vois.
C'est vrai, sauf que pendant 3 semaines, non, si Pogba et Mino Raiola veulent partir à fond et qu'ils leur font la misère pendant 3 semaines en disant nous on veut partir, on veut plus rester ici, etc., etc. Après, t'es dans une situation compliquée parce que t'as un joueur qui veut plus être là, qui te met la pression tous les jours, etc.
Ça doit être anticipé, ça, par les dirigeants. Ils vont pas se retrouver coincés, genre on n'a pas recruté, on doit laisser partir Pogba quand même. Là, je veux bien qu'ils fassent des conneries à Manchester, mais pas celle-là quand même.
Non, quand même pas. Mais tu vois quand même que ça peut être, ça peut être vraiment compliqué pour certains clubs à certains moments.
Cette complexité est là. En l'état, aujourd'hui, Liverpool, City, City, Liverpool et Tottenham, on ne voit pas comment le podium n'est pas déjà acté, Julien.
Alors, Tottenham, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Liverpool et City.
Facto, d'accord.
Non, Liverpool City 1 et 2, ça c'est sûr. Dans quel sens chacun aura son débat. C'est un petit peu comme la saison dernière, mais encore plus peut-être cet été. Il y a ceux qui pensent que Liverpool, avec tout ce qu'ils ont appris la saison dernière, cette saison incroyable où ils finissent avec 97 points deuxième, et que ça les a rendus meilleurs, ça les rendra meilleurs pour cette saison. Ceux qui pensent que pour Manchester City, gagner 3 titres d'affilée, c'est mission quasiment impossible en Angleterre. Il y a un seul entraîneur dans toute l'histoire des 126 ans d'histoire du football anglais qui l'a réussi, c'est Sir Alex Ferguson. Par 2 fois, mais à part lui, personne d'autre n'avait réussi à le faire.
3 titres de suite.
Trois titres de suite, ouais. Effectivement, de champion d'Angleterre. Pep Guardiola, on a la possibilité, mais il y a aussi la Ligue des Champions qui est tellement importante pour Manchester City et pour Guardiola qui l'a plus gagné depuis 2011. Donc, tu sens vraiment dans les deux dynamiques, c'est vachement intéressant. Donc, 1 et 2, il n'y a aucun souci. Après, pour 3 et 4,
le Community Shield a donné le ton quand même. Hein. Ça laisse présager d'une belle saison.
On en a parlé hier un petit peu. C'est vrai que quand tu vois Mo Salah, par exemple, la forme dans laquelle il était dimanche après-midi après seulement une semaine d'entraînement, tu dis qu'effectivement, ça promet. Et la façon dont ils ont joué, première mi-temps plus pour City, deuxième mi-temps plus pour Liverpool, c'est vrai que ça promet beaucoup.
Et alors derrière, tu dis c'est bien plus ouvert qu'on peut le penser alors.
Oui, parce que certes, par exemple, Tottenham a acheté Ndombele, mais Ndombele, aujourd'hui, personne ne sait combien de temps il va mettre à s'adapter au football anglais. Peut-être il mettra au... pas tant du tout à s'adapter, peut-être il lui faudra 6 mois, peut-être il lui faudra
ça
plus pour s'adapter.
Ça a donné quoi les premiers matchs?
Ça a été pas mal, j'ai trouvé par moments. Moi j'ai encore toujours du mal avec sa constance, je trouve qu'il disparaît encore parfois dans un match.
Ça on le voyait déjà quand il était là. Donc,
voilà, exactement, sauf que quand tu joueras contre Manchester City et contre Liverpool, tu pourras plus disparaître.
Est-ce que le recrutement d'Arsenal va leur permettre enfin de repointer le bout de leur nez?
Et ben seulement si t'arrives d'ici à jeudi à leur faire recruter un arrière gauche et un défenseur central de très bon niveau.
Ouais, il est là
Il y a des pistes là-dessus. Les deux dernières saisons, 51 buts encaissés.
Il y a des
les
pistes de défenseur central pour Arsenal.
Alors on parle beaucoup d'Umtiti, notamment parce que Raoul Sagnelli, le grand Manitou du club maintenant et des transferts, a travaillé longtemps à Barcelone et qu'il a encore des très bons contacts là-bas et qu'Umtiti n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Barcelone, ou en tout cas dans le sens où il parle pas vraiment titulaire cette saison. Voilà, c'est ça. Il y en aura d'autres. Il y a le jeune Tierney, l'écossais. Voilà, notamment Tierney qui joue arrière gauche au Celtic Glasgow, qui est un bon joueur aussi, qui pourrait arriver pour renforcer ce côté-là. Mais le problème, c'est que entre maintenant et jeudi, il faut faire vite, quoi. Mais marquer des buts, ils le faisaient très bien la saison dernière. Ils ont fini avec 73 buts. Seulement Liverpool et Manchester City ont marqué plus de buts qu'en championnat. Le gros problème, c'était d'en encaisser moins. Et vu que t'as pas pour l'instant renforcé ta défense, c'est compliqué.
Douillot, tu vois Mustafi défendre. Ou pas Mécano, c'est dans les tuyaux?
Oui, ou pas Mécano aussi, mais je pense que c'est cher. Je pense que Leipzig vendra assez cher et aujourd'hui, Arsenal, financièrement, avec ce qu'ils ont dépensé pour l'instant cet été, même si tu peux échelonner le montant du transfert de Pépé, par exemple, ça reste quand même des investissements et il te reste pas forcément l'argent nécessaire pour faire ou pas Mécano.
Explique-moi un truc, Julien, parce que je comprends pas tout. Donc, tu as un joueur qui est une valeur marchande importante du côté de Manchester United, qui s'appelle Lukaku, qui est encore joueur du club de Manchester, hein, on est d'accord là-dessus. Mm-hmm. Ouais. Et qui s'entraîne avec les jeunes de d'Anderlecht.
T'es un peu resté quand même sur cette histoire.
Attends, mais c'est
tu... un peu
non, mais tu
ta réponse,
non, mais tu te rends compte, la situation.
C'est la seule réponse que Julien n'a pas.
Mais c'est-à-dire
le foutoir.
Si, si, Lukaku, c'est quoi? Lukaku, c'est 50 millions, 60 millions, c'est combien?
C'est 80 millions d'euros.
Mais t'imagines s'il se blesse, je peux pas comprendre ce. Alors soit il y a un.
Bon, réponds-lui parce que franchement, on le tient pas là.
Je comprends pas.
Il a eu l'autorisation.
Dis-moi comment Manchester m'a dit ce soir.
C'était donc un jour off à Manchester United aujourd'hui, tout le monde au repos, et il a eu l'autorisation du club, vu qu'il était à Bruxelles, de s'entraîner avec les moins de 18 ans d'Anderlecht. Mais c'est vrai que de le voir avec le maillot d'Anderlecht au centre d'entraînement d'Anderlecht, c'est
24 heures point barre one shot comme ça, ou ça va perdurer cette histoire?
Non, je pense que c'était aujourd'hui parce qu'il était de retour chez lui.
Ça n'a pas duré très longtemps, mais le fait que tu appartiens à un club, tu t'entraînes avec un autre club, t'imagines, t'es sur le départ, t'es une valeur marchande
quand même conséquente
pour ton club. Tu vas là-bas,
le message est clair.
Il y a un jeune, il te met un coup, il te fait le genou, et tu t'expliques comment ça, t'es supporter derrière.
C'est hallucinant.
Bah écoutez,
le Big Rom, la fracture est.
C'est un gros souci pour Ludo, comme cette histoire.
Bah, si j'étais dirigeant de Manchester United, oui, ça serait un gros.
C'est plus important parce que Breaking News.
Pour moi, ouais.
Est-ce que tu es candidate parce que Nantes, les auditeurs ont répondu hein, hashtag RMC Live, 62% ne te voient pas être en duo à Nantes.
Si Lukaku vient à Nantes, est-ce que tu le laisseras aller s'entraîner avec Lorient?
Bah, sûrement pas.
D'accord.
Sûrement pas.
Est-ce que tu es là demain?
Oui, je suis là demain.
D'accord. Je vais essayer demain de trouver une réponse à cette histoire parce que je vais appeler Anderlecht. Il faut vraiment qu'on soulage.
Bah non, lui, on l'a trouvé, mais.
Mais non, mais c'est déontologiquement, Daniel.
Surtout appeler à Manchester.
C'est pesant pour lui.
Tient un cœur, c'est en train de le briser. C'est un homme qui souffre là.
Mais il est droit comme un i. Je le comprends. Voilà. Attends, c'est déontologiquement, normal. C'est hallucinant.
Je vois. Je suis supporter de Manchester depuis très très longtemps. Je vois que ce club souffre depuis plusieurs années maintenant, qu'ils font des erreurs de recrutement.
Match de l'after ou Lukaku? Qu'est-ce qui te fait le plus de mal?
On les compte plus, les erreurs de recrutement du côté de Manchester. Et du coup.
Bah, et l'autre, là, il va se faire chier à s'entraîner avec des mondes d'Anderlecht.
Non, mais c'est pas croyable.
C'est quand même formidable cette histoire, Ludo.
Julien, on va être contraint et
Manchester cherche. Faites revenir Ferguson.
Allez-y, avec Julien, pardon.
Non, juste pour finir, il cherche un directeur sportif, hein, Ludo, à Manchester. Bah, je vais parler de toi. Non, mais avec ton anglais qui est parfait en plus.
On fait revenir.
Oui, parce que Ed Woodward, c'est assez incertain. Non, Julien, Ludo, on t'a clashique un peu trop. On est contraint et forcé de te reparler demain. Hein. On est.
Oui. Bah, voilà. Juste une petite chose parce que ça vient de sortir. Derby County, le club de deuxième division de Championship dont Philippe Cocu est l'entraîneur, aimerait beaucoup faire revenir Wayne Rooney en Angleterre, lui qui joue à DC United, à Washington en MLS, et lui donner un poste de joueur et entraîneur adjoint de Cocu. Donc c'est une affaire à suivre. Ce serait incroyable de voir Rooney revenir en Angleterre, mais bon, pourquoi pas, ils vont essayer de le faire.
On va suivre ça avec attention.
Non,
to be continued.
Pour rire, 62%, ça veut dire qu'il y a
62% contre 38 qui sont d'accord pour toi.
Il y en a quand même pas loin de 40% qui
à
sont d'accord.
À Man U, je sais pas si ça montrera
avec
38%.
Avec Mickaël Landreau qui est voilà, avec
Mickaël Landreau, voilà, on l'a pas évoqué.
Sinon Julien,
Mickaël est diplôme, moi je viens en adjoint.
Et là du coup pour aller t'entraîner à Lorient quand t'es à Nantes avec Landreau, enfin bon bref.
Non mais c'est l'enfant du club. Trouve pas ça dingue cette histoire là de Lukaku qui s'entraîne avec les bons d'Anderlecht.
On a plus le temps les gars, on va en parler demain.
Ah, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Non, j'en ai pas parlé ce soir. Lukaku. Alors, Lukaku, aujourd'hui, c'était jour de repos.
C'est quand même, cette histoire.
Ouais, je sais pas ce qui se passe là-bas. J'aimerais une réponse. Ludo, t'as pas une réponse.
Les auditeurs, les afteriens vont pas réussir à trouver le sommeil à cause de vous. Merci Ludo, merci Daniel. Merci nos auditeurs. On se retrouve demain. Et vous le savez, nouvelle mouture, 21h minuit, l'after incroyable. Unbelievable encore ce soir.
Comment ça?
Bah, à partir du 19 août.
Ah, je croyais demain.
Non.
Parce que j'étais pas préparé.
Mais non, parce que t'étais encore sur ton
Anderlecht. Ça fait 48 heures que je suis revenu de vacances, voilà. Hein, parce que demain, on démarre à 21h. Je fais une heure sur Lukaku qui s'entraîne avec les membres d'Anderlecht.
Oh, c'est pas possible.
C'est scandaleux, c'est
22h minuit demain, soyez au rendez-vous. Merci, bonne nuit à tous. Bye bye.
RMC. L'Afterfoot.
This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.